du retour d'Ulysse en l'absence de Poséidon. Calypso est contrainte de le laisser partir. Il part sur son radeau. Poséidon revient, il détruit le radeau. Ulysse est accueilli par le fleuve. Il s'endort sous l'olivier, dans les feuilles de l'olivier. Athéna apparaît en rêve à Nausicaa, la fille d'Alcinous, le roi de Phéacie, où il vient d'arriver. Elle s'en va laver le linge de la maison au fleuve. Ulysse les entend rire et crier, il se réveille. Il implore son secours. Elle l'emmène chez Alcinous et la reine Arete, son épouse. Il est accueilli sans qu'on sache de qui il s'agit. Bien plus accueilli encore que nous l'avons décrit hier. Pendant plusieurs jours, des fêtes sont organisées. Laède chante. Ulysse, le cheval de Troie. Ménélas, le combat. Ulysse entend cette histoire qui lui rappelle ses aventures à Troie. Il s'en attriste. Le roi demande un autre récit, un peu plus gai, peut-être, comme disait Jean-Louis, peut-être autre chose. Les amours d'Arès et d'Aphrodite. Et puis lorsque le récit est fini, il est sans doute tard, et le roi enfin se tourne vers son invité dont il ne connaît pas le nom et lui demande « Dis-nous quel est ton nom, et ta ville, et ton peuple. Conte-nous tes voyages, dis-nous tes aventures. » Et Ulysse, peut-être, Homère ne le dit pas, Ulysse prend la place de Laède et raconte son histoire. Moi qui suis Ulysse, de qui le monde entier chante toutes les ruses. Ithaque est ma patrie, couronnée d'une hérite au joli bois tremblant. Des îles habitées qui se pressent autour, Ithaque est la plus basse et la plus rocailleuse. Mais aucun autre endroit à mes yeux n'est plus doux. Et puisque tu le veux, c'est aussi mon retour que je m'en vais te dire. Et toutes les angoisses dont Zeus me poursuivit à mon retour de Troie. En partant de Troie, le vent nous emporta au pays des Kikos. Là, nous pillons la ville et puis nous partageons les femmes et les richesses. Mais moi, je proposais de partir aussitôt, et ces fous refusèrent. Le vin coulait à flot sur la plage à milliers, on égorgeait les bêtes. Cependant, les Kikos appelaient leurs voisins. Plus dense qu'au printemps, les feuilles et les fleurs, très vite ils arrivèrent, quelle charge de mots. Tant que grandit le jour sacré, nous résistons, mais au déclin de la journée, c'est la défaite. Six Achéens guettrés succombent sous leurs coups. Nous autres, nous fuyons la défaite et la mort. Nous reprenons la mer en pleurant les amis. Je fais les trois fois le nom des malheureux. Sur nos vaisseaux larges, Zeus, l'assembleur des nus, nous déchaîna pour hurlements d'enfer, qui fend en trois et quatre pièces nos voilus. armure. La nuit tombe du ciel et notre flotte fuit la colère du vent en donnant de la bande. Il fallut amener, on risquait de se perdre, puis pousser vers la terre à grands efforts de rame. Là, de jours et de nuits, nous restons accablés. L'aurore aux belles boucles annonce la venue, nous replantons les mâts. Nous allions revenir sains et saufs au pays. Mais au détour du cap, courant où les borées nous ferment le détroit et le port de Cythère, 9 jours les vents de mort nous emportent sans trêve. Le 10e nous mène au bord des lotophages. Chez ce peuple qui n'a pour tout mec qu'une fleur, c'est la fleur de lotus qui dispense l'oubli. On arrive, on débarque, on va puiser de l'eau, puis sans tarder mes gens pour réparer leurs forces se mettent au repas sous le flanc des croiseurs. Quand on a satisfait la soif et l'appétit, j'envoie 3 de mes gens reconnaître les lieux, 2 hommes de mon choix qu'un héros accompagne. Mais à peine en chemin, mes envoyés se lient avec les lotophages qui, loin de les tuer, les gavent de leurs fleurs. Plus question de rentrer. Je dois les ramener de force tout en pleurs et les mettre à la chaîne au fond de leur navire qu'ils voulaient déserter. Puis je fais rembarquer mes gens restés fidèles. Pas de retard à bord. Ils auraient vite perdu le goût de tout retour. Là, nous arrivons au pays des cyclopes, qui ne font de leurs mains ni plan ni labourage, tant ils ont de confiance envers les immortels. Chez eux, pas d'assemblée qui juge ou délibère, mais au fond des grands monts, chacun dicte sa loi au creux de sa caverne à ses enfants et femmes. Au-devant de ce port, s'offre une île boisée où les chèvres sauvages se multiplient sans fin. Jamais un pas humain ne va les y trouver. Cette île offre aux marins un mouillage très sûr, et tout près de ce havre s'épanche l'onde claire d'une source sous roche au creux des peupliers. C'est là que nous entrons, un dieu nous pilotait dans la nuit la plus noire. Autour de nos vaisseaux, la brume était épaisse, la lune était voilée. Alors on amena une à une les voiles. Puis on débarqua au brisement de mer et nous nous endormîmes en attendant le jour. Mais dès que reparaît l'aurore aux doigts de rose, nous battons la forêt de cette île enchantée où les nymphes divines faisaient lever les chèvres. Quel dîner pour nos gens! Nous revenons à bord prendre vite les arcs et les épieux à douille. Les tireurs se déploient partagés en 3 bandes. Et les dieux nous octroient une si belle chasse que mes 12 vaisseaux ont chacun leurs 9 chèvres. Pour mon bord seulement, on en prélève 10. Ainsi, tout un grand jour, nous restons au festin. On avait du bon vin, des viandes à foison. La terre des cyclopes était là, toute proche. Nous entendions leur voix, nous voyions leur fumée. Nous écoutions bêler leurs brebis et leurs chèvres. Quand la nuit fut tombée, on s'endormit bientôt. Mais dès que reparaît l'aurore aux doigts de rose, j'appelais tout le monde. Fidèles équipages, attendez-nous ici. Pendant que nous allons, mon navire et mes hommes, interroger ces gens et savoir ce qu'ils sont. Je dis, et l'équipage d'embarquer à ma suite. Les gens sautent à bord et vont s'asseoir au banc. La rame bat le flot qui blanchit sous les coups. Nous avons vite atteint l'endroit, d'ailleurs tout proche, où sur le premier cap s'offrait à nos regards une haute caverne ombragée de lauriers. Elle servait d'étable à de nombreux troupeaux de brebis et de chèvres, et elle était enclose de gros blocs arrachés de chaînes et de pins. C'est là que notre monstre humain avait son gîte. C'est
C'est là qu'il vivait seul à paître ses troupeaux, ne fréquentant personne et ne songeant qu'au crime. Je débarque et j'ordonne à mon brave équipage de garder le navire sans bouger de la grève et je pars n'en menant que 12 hommes d'élite. J'emportais avec moi une autre en peau de chèvre, pleine de ce vin noir qu'un prêtre d'Apollon m'avait donné un jour pour prix de ma pitié. Nous arrivons alors à la haute caverne. Il n'était pas chez lui, il était au Pacage. Nous entrons dans la grotte et faisons la revue. Clés chargées de fromage, agnelets et chevreaux, dans les enclos bondés, chaque cage avait ses stalles. Les aînés, les cadets, plus loin les nouveau-nés. Tout était bien rangé en l'absence du maître. Des vases en métal, tout regorgeant de lait, des terrines, des seaux qui lui servaient à traire. Mais à peine entrés, mes compagnons me hâtent de partir. On aurait pris d'abord des monceaux de fromage, des agneaux, des chevreaux et vidé les enclos. C'était certes le mieux qu'il y avait à faire. C'est moi qui refusais, car je voulais le voir et savoir les présents que nous ferait cet hôte. Il allait se montrer de toute autre manière. On allume du feu pour faire un sacrifice. Prenons et mangeons de bon cœur ces fromages. Tous assis dans la grotte, nous restions à l'attendre.
Tout droit à la maison, c'est un voyage étrange qu'il nous faut accomplir. C'est Zeus assurément qui l'avait décidé. Nous voici maintenant chez toi, à tes genoux, espérant recevoir ton hospitalité, quelques-uns des présents que l'on se fait quand on trouve. Crains les dieux, brave ami. Zeus se fait le vengeur de l'implorant, de l'hôte. Zeus a pour plus beau titre celui d'hospitalier.
Je parlais en vain à ce cœur sans pitié, il me dit, « l'enfant, tu nous viens de si loin pour vouloir que je craigne et respecte les dieux. Sache que le cyclope ne se font nul souci, ni du Zeus à l'Égypte, ni des dieux fortunés. Nous sommes, dis-toi bien, de beaucoup les plus forts. Ce n'est point par égard pour la haine de Zeus que je t'épargnerai, toi et tes compagnons. Il faudrait seulement que mon cœur m'y invite. Mais laissons là ces choses, et dis-moi le mouillage où tu mises en venant. Est-ce au bout de la pointe ou plus près que je sache? Me tâtais-je avant une histoire.
Mon navire s'est brisé sur les roches du cap au bout de votre terre. Le vent nous y poussa, nous ramenant du large. Seuls ses amis et moi en avons réchappé.
Ce monstre sans pitié reste sans rien répondre. Sur mes compagnons s'élançant tout à coup, il en prend deux ensemble, et comme petits chiens, les frappe contre terre, leur cervelle coulait. Puis, membre à membre, hélas, il dépeça leur corps et en fit son souper. Entrailles, chairs et os, moi le tout y passa. Nous autres misérables témoins de ce carnage tendions nos mains vers Zeus en priant qu'il nous vende. Mais nos cœurs impuissants ne savaient que résoudre. Quand enfin le cyclope eut la panse remplie de cette chair humaine et du lait bu en plus, il alla se coucher au milieu de ses bêtes. Et moi, je demeurais méditant mon malheur, déroulant la vengeance au creux de ma poitrine et pris en catena. Puisse venir m'aider. Mon esprit et mon cœur ne savent que résoudre. Vais-je du long de ma cuisse tirer mon glaive à pointe et le courant dessus le lui planter au ventre? Une idée me retint, enfermés avec lui, nous périssions encore. Jamais nos bras humains n'auraient pu soulever ce terrible rocher. En gémissant, nous attendons l'aube divine. Le voici qui se lève et qui traite d'affiler ses bêtes magnifiques et prend soin des petits. Ce travail achevé, cela n'est pas long. Il prend encore deux de mes gens pour déjeuner, puis fait sortir de l'antre toutes ces bêtes grasses. Sans effort, il avait ôté la grosse pierre qu'il replaça comme un couvercle de carquois, puis il siffla ses bêtes vers les sentiers des monts. Moi, je demeurais méditant mon malheur et roulant la vengeance au creux de ma poitrine et priant qu'Athéna m'accorda le salut. Le cyclope avait là contre une palissade une énorme massue. C'était un olivier qu'il avait coupé vert pour le porter bien sec. Nous l'avions comparé au mât d'un noir vaisseau, d'un de ces grands navires à 20 mans de rameurs qui peuvent traverser le grand gouffre des mers. Je me lève et je viens en couper de bon maître. Je le passe à mes gens qui en ôtent les deux, le polissent avec soin, je taille alors la pointe. Je la mets à durcir dans le feu que j'active, je cache enfin ce pieu au profond du fumier qui recouvrait le sol de l'immense caverne. Je fais tirer au sort qui prendra avec moi le risque indispensable de soulever le pieu et de le faire tourner dans l'œil unique du monstre. Le sort désigne ceux que j'aurais pris moi-même. Ils étaient 4 en tout et je fais le 5e. On attendrait bien sûr qu'ils se soient endormis. Il rentre vers le soir, ramenant son troupeau. Il fait alors entrer dessous la haute voûte tout son troupeau bêlant de brebis et de chèvres. mais aussi des boucs et des béliers. Quand avec son rocher sa caverne est bien close, il s'assied et se met à traire d'affilée ses bêtes magnifiques et prend soin des petits. Puis lâchant le petit sous le pied de chacune, il fait de son lait blanc cailler une moitié. Je viens alors vers lui, je tenais à deux mains une outre de vin noir, de ce vin noir si doux qui me venait d'un prêtre. Cyclope, un coup de vin pour finir ton repas. C'était la libation que je voulais t'offrir, pensant que ta pitié nous remettrait chez nous. Mais ta fureur n'a plus de bornes, malheureux. Penses-tu que jamais chez toi on me revienne lorsque l'on connaîtra ton étrange conduite? Je dis, mais m'arrachant mon auge, il la vide. Quelle joie formidable à boire ce vin-là, il en voudrait avoir une seconde fois. Je lui redonne alors du vin un sombre feu, et ce fou de cyclope l'avale d'un seul coup, et le vin pour finir envahit ses esprits. Je lui adresse alors ces paroles mielleuses. Tu veux savoir mon nom le plus connu? Et tu me donneras le présent annoncé? C'est personne mon nom. Personne, c'est le nom que me donnent les miens, et mon père et ma mère m'appellent aussi personne. Ce monstre me répond. Eh bien, je mangerai personne le dernier. Le reste ira devant, le reste ira devant. Le voilà mon présent, le voilà mon présent. Je demeurais méditant mon malheur et roulant la vengeance au creux de ma poitrine. Et brillant qu'Athéna m'accorda le succès. Oh, il se renversa et tomba sur le dos. Et bientôt nous le vîmes ployer son cou énorme et le sommeil le prendre. Invincible dompteur. Il s'était renversé et puis était tombé. Bientôt nous avions vu ployer son cou énorme. Et le sommeil le prendre, invincible dompteur. Mais le trop-plein jaillit, le trop-plein jaillissait de sa gorge, ainsi que des lambeaux sanglants de chair humaine. On l'entendait parfois rôter comme un ivrogne. J'avais saisi le pieu et l'avait mis chauffé dans des monceaux de braise. J'encourageais mes gens si l'un de pris de peur allait m'abandonner. Quand le pieu d'olivier est au point de flamber, on envoyait déjà la terrible lueur. Je le tire du feu, je l'apporte en courant. Mes gens debout m'entourent et soulèvent le pieu. Ils en fichent la pointe dans le coin de son œil. Moi, je pèse d'en haut et je le fais tourner. Avez-vous déjà vu percer à la tarière des poutres de navire? C'est ainsi qu'en son œil nous tenions et tournions notre pointe de feu. Et le sang bouillonnait autour du pieu brûlant, les paupières fumaient, la prunelle flambait, et l'œil en sa racine grésillait sous la flamme. Il a un cri terrible. Le roc lui fait écho. Il s'arrache le pieu et le rejette au loin de ses mains en délire. Tandis qu'épouvantés nous fuyons à l'écart, il se met à hurler en demandant de l'aide. En l'entendant crier, ses voisins se réveillent.
Polyphème, pourquoi ces cris d'accablement? Pourquoi nous réveiller dans cette nuit divine.
Et tous ils reprenaient voulant savoir sa peine.
Serait-ce ton troupeau qu'un mortel vient de prendre? Est-ce toi que l'on tue pour la ruse ou la force?
Et lui, d'une voix fort polyphème, me répond.
La ruse, mes amis! La ruse et non la force! Et qui me tue? Personne! Personne! Personne contre toi! Alors si tu es seul, c'est une maladie qui te vient du grand Zeus!
Première découverte de la psychanalyse.
Avant que Poséidon, car nous n'y pouvons rien!
À ces mots, ils s'en vont et je riais tout bas. C'était mon jeu de mots qui les avait. C'était mon jeu de mots qui les avait trompés! Ils étaient les plus forts, j'étais le plus malin. Solitaire, le cyclope gémissait de douleur. À tâtons, il alla en avançant les mains soulever le rocher qui tenait lieu de porte. Sans tarder, il se mit au travers de l'entrée pour nous prendre au passage si nous voulions sortir dans le flot des moutons. Il attendait de moi pareil enfantillage. Je pesais au contraire mes ruses, mes calculs, et voici le projet que je crus le plus sage. J'avisai ses béliers à l'épaisse toison. Sans bruit, je pris l'osier qui servait pour son lit. Ensemble, je liais les mâles trois par trois. La bête du milieu porterait l'un de nous, deux autres sur ses flancs pour mieux le protéger, et ainsi trois béliers feraient passer un homme. Moi, prenant par les reins la bête la plus forte, je me coulant en son ventre, tendant à pleine main sa toison merveilleuse. Paraît l'aurore aux doigts de rose. Les boucs et les béliers s'en vont au pâturage. Et les brebis bêlantes attendent pour la traite. En proie à ses douleurs, le cyclope fouillait les chines de ses bêtes qui s'arrêtaient bien droites. Mais il ne trouva pas ce que cachait la laine. Oh, le dernier bélier s'apprêtait à sortir. Alourdi par sa graisse, par moi et par mes ruses. Tandis qu'il le tâtait, son maître lui parlait.
Qu'as-tu donc à sortir le dernier? D'habitude, c'est toi qui le premier t'en va. Aujourd'hui, te voilà le dernier des derniers. Est-ce l'œil de ton maître qui cause tes regrets? Ah, si tes sentiments te donnaient la parole, tu me dirais où fuit ce maudit de personne. De son crâne fendu, j'arroserai le sol de ma grande caverne. Et mon cœur trouverait moins lourde les souffrances dont il m'a accablé.
Il dit, et le lâchant me laisse m'en aller. Dès qu'on est un peu loin de l'entrée de la cour, je me dépends d'abord, puis détache mes hommes. Nous fuyons en courant. Sans tarder, nous poussons les bêtes trottinantes que la graisse alourdit, prenant de longs détours pour ne pas être vus et rentrer au navire. Ah, la joie de nos gens de nous voir apparaître et les pleurs et les cris sur ceux qui ne sont plus, mais les sourcils froncés, je défends que l'on pleure. J'ordonne qu'au navire on jette sans retard tout un flot de brebis à l'épaisse toison et que sur l'onde amère aussitôt l'on reparte.
Les gens sautent à bord et vont s'asseoir au banc. Aussitôt que le flot blanchit dessous leur cou, je m'adresse au cyclope en paroles railleuses.
Non, il n'était pas dit qu'abusant de ta force, cyclope, tu devais manger les compagnons d'un homme sans vigueur. Malheureux qui dévore les autres dans ta demeure, de sa méchanceté tu viens d'être payé, Zeus et les autres dieux t'en ont récompensé.
Je dis, mais dans son cœur redouble la colère, d'une haute montagne il arrache la cime, il la lance et le tombe au devant du navire. La mer sous la tombée de la roche s'ébranle et le flot du retour nous ramène à la côte où ce grand coup de flux nous fait presque toucher. Moi prenant à deux mains notre plus longue gaffe, je pousse à éviter, j'excite mes gens de la tête, c'est moi qui leur rythme l'allure. Nous voici revenus en mer deux fois plus loin, je hèle le cyclope une seconde fois, cependant que mes gens de leurs mots les plus doux à l'envie me retiennent.
Tu vas exaspérer malheureux ce sauvage! S'il nous entend encore, il risque cette fois de nous mettre en bouillie.
Il parlait sans fléchir l'audace de mon cœur pour qu'il reconnût bien l'auteur de ses souffrances. Je reprends et il crie de toute ma rancune.
Si quelqu'un te demande qui t'a reglacé, cyclope, dis-lui que c'est Ulysse, le ravageur des villes. Oui, le fils de Laërte qui demeure en Ithaque.
Il répond en hurlant.
Misère! Voilà donc aujourd'hui s'accomplit l'oracle du devin. Il avait bien prédit ce qui se passerait, mais j'attendais toujours un mortel grand et beau. Et c'est toi un abord, un bon à rien, un faible, qui vient me crever l'œil après m'avoir fait voir.
Il disait, mais déjà ce monstre de cyclope, il tendait ses deux mains vers les astres du ciel. Au maître de la terre, ô seigneur Poséidon, si je suis bien ton fils, fais pour moi que jamais il ne rentre au logis, ce pillard, cet Ulysse. Et s'il y parvenait, fais qu'après de longs mots, sur un vaisseau d'emprunt, solitaire, il n'arrive que pour trouver encore le malheur au logis. Maître de la terre, ô seigneur Poséidon, si je suis bien ton fils, fais pour moi que jamais il ne rentre au logis, ce pillard, cet Ulysse. Et s'il y parvenait, fais qu'après de longs mots, sur un vaisseau d'emprunt, solitaire, il n'arrive que pour trouver encore le malheur au logis.
Ainsi qu'il priait ce cyclope blessé. Poséidon l'exauça. Poséidon l'exauça. Mais nous, nous retournions dans l'île où attendait le reste de l'escale. On arrive, on débarque, on tire les vaisseaux sur la grève, on fait sortir les bêtes. Je fais si bien les parts que chacun est content. Seul, je suis mieux traité, mes compagnons en guetterie me donnent le bélier. Je l'offre sur la grève au dieu des nuées sombres, à Zeus, fils de Cronos. Ainsi, tout un grand jour, nous restons au festin, au coucher du soleil quand viennent les ténèbres. On s'étend pour dormir sur la grève de mer.
C'est une île flottante encerclée tout entière d'une côte de bronze.
infrangible muraille, un grand rocher tout lisse et pointe vers le ciel. Éole, dans son manoir, nourrit ses 12 enfants. D'hommes. Pour femmes à ses fils, il a donné ses filles. Et tout près de leur père et de leur digne mère, ils vivent au banquet dans les fumées des graisses. Leurs tables sont chargées de douceurs innombrables. Tout le jour, la maison retentit de leur voix. Sa chaste épouse dormir sur les tapis de leur lit ajouré. Nous gagnons leur cité et leur belle demeure. Et oh, tout un mois me traite et m'interroge, et moi, de bout en bout, point par point, je raconte. Quand voulant repartir, à mon tour, je le prie de me remettre en route. Il a même obligeance à me rapatrier et il s'y prend ainsi. Il écorche un taureau de 9 ans. Dans sa peau, il coule toutes les airs des vents impétueux, de ces vents mugissants dont Zeus l'avait fait naître. Il s'en vient le porter au creux de mon vaisseau. Son vœu était ainsi d'empêcher que les vents nous soient pour l'avenir le moindrement. Puis il nous fait souffler la laine d'un séphir qui doit, gens et vaisseaux, nous remettre au logis. La folie de mes gens allait tout perdre encore. Durant 9 jours, 9 nuits, nous voguons sans relâche. Voyait déjà les feux de nos bergers. Mais il me vint un doux sommeil, j'étais brisé, car c'est moi qui toujours avais tenu la barre pour arriver plus vite au pays de mes pères. Alors, mes compagnons, commencent leur discours. Dans ce sac, pense-t-il, ces cadeaux, c'est l'or et c'est l'argent de ce grand cœur d'Éole. Misère, en voilà un, mais toujours en respectant quelques villes et lieux qu'il puisse bien aller. Il ramenait déjà de 3 sa belle charge de précieux butins, et nous, ses compagnons, n'avons que nos mains vides pour rentrer au logis. Et nous, ses compagnons, n'avons que nos mains vides. Allons vite, il faut voir ce que sont ces cadeaux. Se range à cet avis funeste. On détache lourd et les vents s'en échappent, et soudain la rafale nous chasse de la terre. Moi je m'éveille alors et ne sais trop que faire. On détache lourd et les vents s'en échappent, et soudain la rafale nous chasse de la terre. Moi je m'éveille alors et ne sais trop que faire. On détache lourd et les vents s'en échappent, et soudain la rafale nous chasse de la terre. Moi je m'éveille alors et ne sais trop que faire. On détache lourd et les vents s'en échappent, et soudain la rafale nous chasse de la terre. Moi je m'éveille alors et ne sais trop que faire. On détache lourd et les vent s'en échappe, et soudain la rafale nous chasse de la terre. Moi je m'éveille alors, et ne sais trop que faire. On détache l'ourre, et les vents s'en échappent, et soudain la rafale nous chasse de la terre. Moi je m'éveille alors, et ne sais trop que faire. On détache l'ourre, et les vents s'en échappent, et soudain la rafale nous chasse de la terre. Moi je m'éveille alors, et ne sais trop que faire. On détache l'ourre, et les vents s'en échappent, et soudain la rafale nous chasse de la terre. Moi je m'éveille alors, et ne sais trop que faire. Quelle divinité méchante te poursuit de ses gestes contraires jusque dans ton état. Nous t'avions renvoyé en prenant tous les soins pour que te soit rendue ta maison, ta patrie, ta famille, tes biens et tout ce qui t'est cher. Je réponds. Le désastre me vint d'un méchant équipage, mais aussi et surtout d'un sommeil malheureux. Ami, secourez-moi. Je disais, essayant les plus douces paroles, mais il restait muet. Et Éole, tout à coup, s'impatiente et me dit, Décampe de ces lieux, ô le rebut des êtres, car je n'ai pas le droit d'aider à reconduire un homme que les dieux fortunés ont en haine. Décampe, tu reviens sous le courroux des dieux. Il dit, me renvoie, malgré mes lourds sanglots. Nous reprenons la mer, l'âme découragée, après notre folie où retrouver un guide.
Une jeune fille qui s'en venait puiser à la source de l'ours.
Non, c'était la fille. On s'aborde, on se parle, il demande le nom du roi de ses sujets. Elle, tout aussitôt, leur montre les hauts toits du logis paternel. Mais à peine entrent-ils dans l'illustre manoir qu'ils y trouvent la reine, aussi haute qu'un mont, dont la vue les atterre et les remplit d'effroi. Elle, tout aussitôt, s'empresse d'appeler le roi Antiphates, son glorieux époux, qui n'a qu'une pensée, les tuer sans merci. Il broie l'un de mes gens dont il fait son dîner, les deux autres s'enfuient et courent au navire, mais à travers la ville, il fait donner l'alarme. À l'appel de partout, céleste trigon robuste, moi homme que géant, accourent par milliers, du haut de leurs falaises, ils jettent des rochers. Équipage mourant et vaisseau fracassé, un tumulte de morts monte de notre flotte. Mes gens sont harponnés comme de gros poissons. De la rade, j'ai pris le glaive à pointe qui me battait la cuisse et j'ai tranché tout net la mare du navire. J'active alors mes gens. Pour échapper au pire, ils font voler l'écume par crainte de périr. Bourgeois, voici le large. Mon navire a doublé les deux caps en surplomb. Le reste de l'escadre, nous pleurons les amis. Équipage mourant et vaisseau fracassé. Dans le port, l'estrigon périssait mon escadre, et seul mon noir croiseur en avait échappé. Nous gagnons à Aïaïe, la demeure de Circé. C'est la sœur d'Aïétès, aux perfides pensées, tous deux sont les enfants du soleil des vivants, qui les eut de percer la nymphe océanique. Nous arrivons au port, et sans bruit, nous poussons jusqu'au fond du mouillage. Autour de nos vaisseaux, la brume était épaisse, la lune était voilée. On arrive, on tire les vaisseaux sur le sable, et durant deux jours et deux nuits, nous restons accablés, accablés de fatigue et rongés de chagrin. Quand du troisième jour, l'aurore en belle boucle annonce la venue, je sors, je me lève, je prends mon arc, ma pique, je grimpe et je me tiens sur une hauteur pierreuse. De troupeaux d'humains, on ne voyait pas trace. Ils ne montaient au centre de cette île qu'une fumée. Il nous fallait aller reconnaître les lieux. Mon esprit et mon cœur ne savent que résoudre. Devrais-je aussitôt aller me rendre compte? Le parti que je prends est un peu différent. L'heure étant arrivée de donner le repas, je m'en retournerai tout d'abord au croiseur, puis j'enverrai mes gens reconnaître les lieux. Je rentrai au croiseur, quand un dieu prit pitié de mon isolement et du malheur des miens. Il mit sur mon chemin un cerf de belle taille, à la belle ramure. Écrasé de soleil, il venait boire au fleuve. Il sortait du taillis, du bronze de ma pique, je le frappe en plein dos. Il s'effondre en bramant et la ville abandonne. Je monte alors dessus, j'arrache de la plaie le bronze de ma pique. Je réunis les pattes de cette bête énorme d'une tresse d'osier. Je la mets sur mon dos, appuyée sur ma lance. Et ainsi chargé, je rentre au noir croiseur et j'éveille mes gens. Je les éveille alors de les mots les plus doux. Pour nous, le jour fatal n'est pas encore venu. Ce n'est pas aujourd'hui que nous mourrons de faim. Je dis mon discours, aussitôt les réveille, ils écartent les yeux, ils voient la bête, ils restent ébahis devant pareil gibier. Quand de leurs yeux, ils ont rempli, quand ils, cette merveille, ils ont rempli leurs yeux, ils se lavent les mains, on se met aux apprêts d'un repas magnifique arrosé de bon vin. Ainsi, tout un grand jour, nous restons au festin. On avait de quoi manger et boire au coucher du soleil en ces temps pour dormir sur la grève de mer. Mais dès que reparaît l'aurore aux doigts de rose, j'appelle à l'assemblée mes compagnons lassés de tant courir le monde. Amis, écoutez-moi. Au milieu de cette île que couronne la mer est une plaine basse. Au centre, l'on peut voir une fumée monter. Mais à ces mots, leur cœur se brise. Ils se souviennent du lestrigon et du cyclope aussi qui dévore les hommes. Ils pleurent à grands cris, versent des flots de larmes, mais on n'avait que faire de ces gémissements. Je divise en deux camps tous mes hommes guettrés, chaque bande à son chef. C'est moi-même pour l'une et pour l'autre Riloc au visage de Dieu. Nous secouons les sorts dans un casque de bronze. Il en saute celui de Riloc au grand cœur qui se met en chemin avec ses 22 hommes. Les partants, les restants, tout le monde pleurait. Il y trouve dans un val, en un lieu découvert, la demeure de Circé aux belles pierres lisses. Et tout autour des loups et des lions des montagnes. Ces bêtes étaient les hommes qu'avait ensorcelé Circé la magicienne. Aussi voyant mes gens, point ne les assaillèrent. Simplement ils se lèvent et de leurs longues queues doucement les caressent. Ainsi les chiens leur maître, sachant qu'il a toujours pour eux quelque douceur. Ils entendent une voix chanter, le bruit d'un métier. Circé au métier tissait un de ces beaux et fins ouvrages dont la grâce trahit la main d'une déesse. Politesse, le premier, celui que son bon sens me faisait préférer, prend la parole et dit: écoutez mes amis, on tisse au grand métier, tout le sol retentit, et quelle jolie voix, femme ou déesse, qu'importe, crions sans plus tarder. Elle accourt à leur voix, et elle les invite, et voilà tous mes fous ensemble qui la suivent. Seul Riloc, flairant le piège, est resté. Elle les fait asseoir aux sièges et fauteuils. Elle leur fait le mélange dans du vin de Pramnos, miel, farine et fromage. Elle mêle au breuvage une drogue funeste qui va leur ôter tout souvenir de la patrie. Elle bat le mélange, elle apporte la coupe, ils boivent d'un seul trait. Elle les frappe alors de sa longue baguette et va les enfermer dans l'enclos de ses ports. Ils en avaient l'allure, la voix, les soins, les traits. Mais en eux persistait leur esprit d'autrefois. Ils pleuraient et Circé leur jetait glands et fens, la pâture ordinaire des cochons qui se vautrent. Or vers le noir croiseur Riloc rentrait, voulait nous raconter le triste sort des autres, mais il ne pouvait plus proférer un seul mot. Son cœur était navré d'un trop rude chagrin, il gémissait sans cesse et nous tous étonnés le pressions de questions. Il nous raconte enfin la perte de ces gens. Nous allions comme l'Ulysse à travers la ramée, nous trouvons dans un val une belle bâtisse. Dans le bruit d'un métier, il nous semblait entendre la fraîche voix d'une déesse ou d'une femme. Mes gens crient leur appel, elle accourt à leur voix. Et voilà tous mes fous ensemble qui la suivent. Moi seul je suis resté, j'avais flairé le piège. Aucun n'est ressorti, pourtant je suis resté longtemps à les guetter. Il se passe en ces lieux des choses épouvantables. Il disait sur mon dos, je jette mon grand glaive et par-dessus mon glaive, par-dessus
je jette mon grand arc par-dessus mon glaive, et ma gréverie là qui veut me retenir, je m'en vais chez Circé. Je venais d'arriver dans le vallon sacré, j'allais arriver dans la maison de Circé, quand soudain devant moi apparaît Hermès. Il avait pris les traits d'un de ces jeunes gens dont la grâce fleurit sous la première barbe. Il me saisit la main et il s'exprime ainsi. Où vas-tu, malheureux, tout seul et dans ces lieux que tu ne connais pas? Déjà tes compagnons ont été transformés en pourceaux dans ces parcs, et toi, en les suivant, tu subiras le sort. Mais je veux te tirer de ce péril mortel. Vois, c'est l'herbe de vie, avec elle ne crains rien, car sa vertu t'évitera le mauvais jour. Et suis bien mes conseils. Aussitôt que Circé voudra te transformer, toi, du long de ta cuisse, tire de ton glaive à pointe, fais mine de l'oxyre. Tremblante, elle voudra te mener à son lit. Ce n'est pas le moment de refuser sa couche. Songe qu'elle est déesse, que seule elle a le pouvoir de délivrer tes gens et guider ton retour. Mais fais-lui prononcer le grand serment des dieux de n'avoir contre toi aucun mauvais dessein et de ne pas chercher, quand tu seras sans âme, à te ravir ta force et ta virilité. Ayant dit ces paroles, le dieu au rayon clair tira du sol une herbe qui m'apprit à connaître. Les dieux la dénomment Molu. La racine en est noire et la fleur blanc de lait. Ce n'est pas sans effort que les mortels l'arrachent. Mais les dieux peuvent tout, on l'apprend chaque jour. Puis Hermès, regagnant les sommets de l'Olympe, disparut dans les bois. Au manoir de Circé j'entrai, que de pensées bouillonnaient en mon cœur. Maintenant, va au parc, coucher près de tes gens. Le charme est sans effet. Moi, du long de ma cuisse, tirant mon glaive à pointe, je lui saute dessus, fais mine de l'oxyre. Alors, elle s'effondre. Elle me prend les genoux et me dit dans ses plaintes, quel est ton nom, ton peuple, et ta ville, et ta race? Jamais aucun mortel n'a bu cette drogue. Il faut qu'habite en toi un esprit invincible. Tu serais donc Ulysse dont Hermès m'avait annoncé la venue. Prononcer, sceller le serment. Je montais existait. J'avais l'esprit ailleurs et voyais tout en mal. Circé me regardait, restait là sans rien dire, sans plus vouloir toucher au manger ni au boire, et au reste peut-être. Circé alors me dit, Ulysse, qu'as-tu donc à rester sur ton lit pareil à un muet? Tu te ronges le cœur sans plus vouloir toucher au manger ni au boire. Tu n'as plus rien à craindre depuis mon grand serment, et moi je lui réponds, Circé, comment peux-tu penser que je pourrais faire quoi que ce soit sans avoir vu d'abord mes amis délivrés? Ah, si c'est de bon cœur que tu me viens offrir ces mets, cette boisson, délivre donc mes gens pour que sans plus attendre je les vois devant moi. Je dis, et Circé, la baguette à la main, s'en va ouvrir ses parcs. Il en sort des ports qui semblaient de neuf printemps. Ils se mettent en rang, elles passent en leur rang et les frottent chacun d'une drogue nouvelle et lui perdent leur soin. Les voici à nouveau redevenus des hommes, mais plus jeunes et plus beaux et de plus belles mines. Quand ils m'ont reconnu, ils m'embrassent les mains. Le manoir tout à coup s'emplit de sanglots et Circé elle aussi est prise de pitié. Allons, allons! Ne poussez plus tant de gémissements. Je sais bien tous les maux que vous avez souffert sur la terre et sur mer dans les pays hostiles. Vous voilà sans élan et l'âme anéantie, vous rappelant sans cesse vos tristes aventures, ne goûtant plus la joie à force de souffrir. Restez là tout le jour pour réparer vos forces, afin de retrouver en vous le même cœur qui jadis vous a fait quitter le sol d'Ithaque. Elle dit et nos cœurs s'empressent d'obéir. Jusqu'au bout de l'année chez Circé nous restons. On avait du bon vin, des viandes à foison.